Là, ce n'était pas de l'héroïne, c'était du fentanyl. Donc, je sais même qu'il a fait une surdose, j'ai été sauvé à l'hôpital. Et rapidement, il est venu me voir pour dire, là, faut reprendre la méthadone parce que ça va pas bien.
Et la méthadone, Marie-Ève, je pense que c'est important de préciser que la méthadone, là, c'est tu parles d'un traitement de substitution. Oui, ça empêche les gens, c'est ça, de prendre des opioïdes.
Ça les empêche d'être malades et ça leur permet, lorsqu'ils ont la bonne dose au bon moment, d'être totalement fonctionnel. Moi, j'ai déjà soigné un médecin sur la méthadone, j'ai déjà soigné un avocat sur la méthadone, ça peut être n'importe qui, hein. C'est pas juste des détenus. Donc, c'est un peu comme un diabétique qui a besoin d'insuline. Quand il y a la bonne dose d'insuline, il peut fonctionner à peu près normalement. Donc, pour les opioïdes, c'est un peu la même chose. Donc, quand il est revenu me voir, il m'a dit, il faut recommencer le traitement, je veux pas mourir de ça, il voulait vivre, bien sûr, il était libre, il lui restait 6 mois de probation. Et dans l'entremise, le service correctionnel a demandé un test d'urine aléatoire. Dans ce temps-là, ils appellent les détenus qui viennent de sortir et ils leur disent, mettons, vous avez 48 ou 72 heures pour venir faire un test d'urine. Et dans les conditions de libération, il y avait la non-consommation, dont l'abstinence totale de toute substance. Et malheureusement, le service correctionnel a trouvé des traces de fentanyl dans ses urines. Et même s'il y a eu des discussions avec eux, le patient, le client a quand même été ramené en prison. Et quand on retourne en prison au fédéral, on passe par le provincial. Donc, Monsieur Dédé a dû retourner en prison provinciale, où, selon moi, les conditions de détention sont pires.
Mais au fédéral. Au-delà des conditions de détention, je me souviens quand on s'est parlé à l'époque de la mort de M. Lapierre, là, Marie-Ève Morin, tu m'avais dit, écoute, cette règle-là de renvoyer en prison des gens qui ont consommé, de mettre la condition, vous n'avez pas le droit de consommer, c'est cruel, c'est injuste parce que ce sont des dépendants. Ça se peut qu'ils en reprennent, puis c'est un peu pas de leur faute.
Ben, en fait, moi, ce que je dis souvent, on en parle avec la décriminalisation à Vancouver et tout ça, là. Consommer de la drogue, ce n'est pas un crime. Être toxicomane, ce n'est pas un crime. C'est sûr que si quelqu'un en psychose décide de tuer quelqu'un parce qu'il a pris de la coke, par exemple, il commet quand même un crime. Mais le fait de consommer, ce n'est pas un délit en soi. Et je pense que si ces gens-là s'étaient fait offrir, par exemple, un traitement ou une thérapie, au lieu de retourner en prison, je pense que M. Lapierre serait encore là. Parce qu'il allait pas mal, il allait quand même bien, il y avait une rechute, il voulait qu'on reprenne le traitement, mais il fonctionnait, mentalement, il était stable, physiquement, il allait bien, il était en contact avec sa famille, sa blonde, son beau-fils et tout ça, puis il travaillait. Fait que c'était vraiment quand même bête que pour un test d'urine qui est sorti positif, on ramène quelqu'un dans des telles conditions, dans une prison provinciale où on enferme surtout des gros cas de psychiatrie, donc des cas de des gens psychotiques. Et je comprends toujours pas, moi, pourquoi il s'est ramassé dans la même cellule que cette personne-là, mais je ne travaille pas dans les prisons, je peux pas me prononcer.
Comment t'as réagi quand t'as appris que M. Lapierre avait été tué en prison?
Ben, vous savez, les professeurs ont des chouchous, les docteurs aussi ont des chouchous, puis André, c'était un de mes chouchous, fait que j'ai eu beaucoup de... En fait, j'ai eu un choc sur le coup d'apprendre comment ça s'était passé. Puis oui, j'ai eu de la peine, hein, ça nous arrive de pleurer quand un patient meurt, malheureusement, c'est la vie. Puis on n'est pas mécanicien de voiture, on traite des humains. Donc, quand on perd un humain, mais ça donne toujours un choc. J'ai surtout crié à l'injustice, j'ai voulu reparler à l'agent de libération conditionnelle, je comprenais pas qu'on l'avait ramené en dedans, alors qu'il n'avait pas commis de délit. Pas de crime. Et la seule personne qui avait mis en danger, c'était lui-même. C'était pas les autres.
Puis là, les gens nous écoutent, Marie-Ève Morin, là, puis bon, écoute, c'est pas tout le monde qui connaît l'enjeu comme toi, l'enjeu de la dépendance. Puis les gens peuvent se dire, bah, écoute, il y avait juste à pas consommer.
Mm-hmm. C'est facile à dire. En fait, je vous dirais, ça dépend de quelle dépendance on parle. Si on parle de dépendances physiques, comme les opioïdes, les benzodiazépines, l'alcool, le GHB aussi, c'est très difficile d'arrêter même quand on veut. Et n'oubliez pas que la dépendance, c'est une maladie sournoise, chronique, dont la rechute fait partie du processus. Et à un moment donné, les périodes d'abstinence se prolongent. Fait que ça se peut que quand vous essayez d'arrêter de fumer, par exemple, ça se peut que la première fois, vous faites une semaine sans fumer. Après ça, vous réessayez, vous faites un mois sans fumer. Puis à un moment donné, l'abstinence peut se prolonger et le traitement adéquat peut être mis en place, comme la méthadone ou la suboxone. Mais la rechute fait partie du processus de cette maladie qui a des composantes multifactorielles, hein, c'est des composantes génétiques, sociales, environnementales, contextuelles, mais c'est sûrement pas juste une mauvaise habitude de consommer, puisque, par exemple, André est mort à cause de sa dépendance, mais pas de sa dépendance, vous comprenez ce que je veux dire? Il est mort de conséquences collatérales, en fait.
Marie-Ève, tu nous as dit que comme médecin puis comme personne qui aimait beaucoup André Lapierre, tu as essayé d'avoir des réponses des libérations conditionnelles. Qu'est-ce que ça a donné?
En fait, le pire, c'est que j'ai parlé à l'agent de libération conditionnelle avant qu'on le ramène en prison. Je leur ai tout expliqué. J'aurais dit oui, il est venu me voir, il a avoué sa rechute, il est en train de réajuster sa méthadone. Il est en traitement. Puis malheureusement, j'ai appris 2 semaines plus tard qu'il était de retour en prison. Fait que je sais pas quel poids ça l'a eu. Ce que je peux vous dire, je pense que depuis cet incident, moi j'ai vu des gars, là, des filles aussi sortir de prison avec des conditions de garder le calme, garder la paix sociale, mais il n'y avait plus de conditions de rester abstinent de toute substance. Ça, j'ai vu 2 personnes récemment là, qui n'avaient pas de conditions de non-consommation. Ce que je pense qui est un peu plus réaliste.
Plus réaliste, plus en phase avec la condition médicale de ce monde-là.
Ben en fait, c'est comme la décriminalisation. Là, à Vancouver, on dit qu'on veut réarrêter ces gens-là. On criminalise une maladie, on criminalise un comportement. On criminalise pas d'autres maladies comme ça. Le cancer du poumon, on les traite, les gens qui ont le cancer du poumon, même s'ils fument encore. Fait que les personnes dépendantes aux substances, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est pas une raison pour ne pas leur donner accès aux soins. Surtout les opiomanes, parce qu'on a des traitements efficaces. Puis je suis convaincue que si André avait su qu'il allait rechuter, il n'aurait jamais arrêté sa méthadone en prison. D'après moi, il l'aurait continué.
Marie-Ève, merci de nous avoir parlé d'André Lapierre, un homme qui est mort tragiquement là, parce qu'il a été enfermé dans la même cellule de la prison Rivière-des-Prairies, la même cellule que Ali Ngarkouyé, qui a été reconnu coupable par ailleurs de meurtre de M. Lapierre, et c'est lui qui avait tiré sur le policier Vig. Merci beaucoup, Marie-Ève.
Ça m'a fait plaisir. Merci, Patrick.
À la prochaine. C'est Dr. Marie-Ève Morin, médecin de famille spécialisée en dépendance et en santé mentale à la clinique La Licorne à Montréal. Elle était le médecin d'André Lapierre.
CFIX FM 93 est là pour vous. Que vous ayez besoin de personnel ou simplement de parler de vos prochaines promotions, vous êtes à la bonne place. Acheter de la publicité dans une radio parlée, ça marche. Demandez à nos clients. Lorsque vous souscrivez un plan de publicité à CFIX FM 93, vous avez accès à bien plus qu'une simple publicité. Chez nous, le client est plus qu'un client. N'attendez plus et contactez notre représentant aux ventes Stéphane Morneau au 418-905-0318 ou par courriel à vente au pluriel à commercial. CFIXRimouski.com.
Hey, salut, Denise. Je rentrerai pas travailler à la cantine. Je viens de gagner au Lotomax.
OK. Et puis demain?
Prochain tirage. 60 millions plus 6 max millions.
Selon l'équipe de Sensation Plus, pour une soirée parfaite, ça prend de la lingerie coquine, de l'huile à massage, des jouets et beaucoup de... Sensation Plus. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com. Partagez le plaisir.
T'as besoin de pieux vissés? T'appelles Pieux Vistec. Pour ton patio, cabanon, verrière, ajoute à ta maison les fondations de ton chalet Pieux Vistec. 20 ans d'expérience avec service professionnel et impeccable. KRTB Rimouski, Pieux Vistec 418-868-6959.
À Rimouski, c'est CFIX FM 93. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets polarisants. Tout ce qui fait partie de l'actualité. À Rimouski, c'est CFIX FM 93.
Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 14 mai 2024. La MRC de la Métis poursuit sa mobilisation face aux fermetures des comptoirs et guichets Desjardins avec une manifestation devant les bureaux du Centre de services de Saint-Gabriel-de-Rimouski lundi prochain à 10h. Le maire de Saint-Gabriel, Georges Deschênes, invite tous les citoyens de la Métis et de l'extérieur à participer à cette manifestation. Desjardins prévoit la fermeture complète de la caisse de Saint-Gabriel et la réduction des services à celle de Sainte-Luce. Desjardins prévoit également retirer les guichets automatiques à ces deux endroits. À Saint-Gabriel, près de 2500 personnes utilisent les services de la caisse. Une pétition circule également. Le groupe Rio, qui possède des hôtels à Matane, Bonaventure et Percé, ajoute un fleuron à son parc hôtelier. Il vient de faire l'acquisition de l'hôtellerie Baie Bleue de Carleton-sur-Mer, un fleuron du secteur touristique. La transaction inclut aussi le centre des congrès adjacent à l'hôtel. La transaction voit l'ajout de 108 chambres suite à son parc hôtelier. La Société nationale de l'Est du Québec annonce qu'elle remet le prix Patriote de l'année à la scientifique et vulgarisatrice Lynn Morissette. Reconnu mondialement pour son expertise en écologie des mammifères marins et des écosystèmes, Mme Morissette contribue à développer une prise de conscience de la richesse de notre environnement et de l'importance de protéger nos écosystèmes. Le Mouvement patriote du Bas-Saint-Laurent et la Société nationale de l'Est du Québec invitent la population à participer à la 14e Grande Marche des Patriotes qui se déroulera ce dimanche à Rimouski. Le rassemblement aura lieu à 13h30 au Parc de la Gare. Et finalement, la ville de Rimouski a présenté ses états financiers 2023 hier soir devant seulement deux contribuables intéressés. C'est un surplus de 1,2 million de dollars qui a été dégagé sur le budget de fonctionnement de l'an dernier. Selon le maire Guy Caron, la conjoncture économique et la forte augmentation du coût de la vie ont eu un effet direct sur les opérations et les projets de développement de la ville. Cela fait en sorte que Rimouski a dû jongler avec des impondérables comme le prix du bitume qui a bondi l'an dernier. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
Les faits, les vrais. CFX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. Art et spectacle.
Le Québec maintenant.
16h41, le chroniqueur de la presse dans la section showbiz, dans la section culture. Oui, Mario Girard a posé une question intéressante dans sa chronique aujourd'hui. On peut penser que le milieu artistique est très ouvert à ce qu'on appelle la diversité, par exemple aux homosexuels, aux lesbiennes, LGBTQ+, etc., etc. Donc, le milieu artistique est-il vraiment inclusif? La réponse peut surprendre. Salut Mario.
Salut.
Donc, t'es parti d'une série de 4 capsules en vue de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça va avoir lieu le 17 mai. C'est une initiative de la Fondation Jasmin Roy. Et les réponses ont de quoi surprendre quand on pense que ce milieu-là, quand on l'imagine très, très ouvert.
Oui, tout à fait. On en parle régulièrement de ce sujet-là, à savoir, est-ce qu'on étiquette les acteurs, les actrices gays, trans, et est-ce qu'on les cantonne dans des personnages justement de gays et de trans ou de lesbiennes? Et ça revient sporadiquement, ça revient régulièrement. Tu sais qu'aux États-Unis, il y a un mouvement très extrémiste. Là. Les gays, les acteurs gays voudraient que tous les rôles de gays soient leur soient donc offerts. Moi, je suis pas...
Même chose pour les trans.
Pour les trans. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'après ça, c'est difficile pour eux autres de dire... aux acteurs straight, tu sais, vous avez pas le droit de jouer. C'est-à-dire que les acteurs straight vont pouvoir dire, ben à ce moment-là, on va prendre tous les autres rôles. Et c'est pas ça en fait que les acteurs gays, en tout cas ce matin dans les capsules dont je parle, demandent ou réclament. Ils voudraient avoir le même droit que les acteurs hétéros ou straight, à qui on offre toute, en fait, une grande palette. Alors que les 15 acteurs et actrices interviewés là par la fondation disent, ben nous, c'est surtout quand vient le temps de créer un personnage gay ou de lesbienne ou de trans, en fait, qu'on se tourne vers nous.
Mais ces comédiens-là, comédiennes-là qui ont témoigné, elles ont des anecdotes qui honnêtement, m'ont surpris, Mario.
Oui, puis ça vient, ces espèces d'avertissements-là viennent dès la formation. Dès l'école de théâtre, dès l'école nationale ou les cégeps, les collèges où on enseigne le théâtre, on leur dit, on étant des professeurs, des
collègues, même.
Des collègues qui leur disent « Garde ça pour toi, parle-en pas ». Puis moi, ça me rappelle un acteur qui n'est plus de ce monde, vieil acteur, et lui, il disait à tout le monde, il a dit ça toute sa vie, toute sa carrière, « Ferme ta gueule ». Lui, il prétendait qu'il fallait pas le dire. Alors, en 2024, on le dit encore aux jeunes acteurs.
Mais cet acteur-là dont tu parles, là, qui disait, là, ferme ta gueule, parle-en pas, dis-le pas que t'es gay ou que t'es lesbienne, il est décédé en quelle année?
Il est décédé il y a une dizaine d'années.
OK, mais lui, il a grandi à une autre époque.
À une autre époque. Mais qu'on le dise encore aujourd'hui, c'est quand même étonnant. Puis là, évidemment, c'est difficile. Bon, quand je dis qu'on en parle régulièrement, il y a 3 ans, Samuel Larochelle avait fait un dossier là-dessus qui a été publié dans la presse. Et puis, il était parti de la série, souviens-toi, Entre deux draps. Il y avait un couple gay et les deux personnages étaient joués par deux acteurs hétéros. Et là, ça avait créé une petite commotion puis suscité un débat assez intéressant. Et alors, tout ça pour découvrir qu'on leur dit, dès le départ, tu sais, n'en parle pas parce que tu vas être étiqueté pour le restant de tes jours. Alors, ces gens-là, en fait, ils vivent un double placard en quelque sorte, parce que quand tu es une personnalité gay, tu as le choix de le dire à ton milieu, à ton entourage, ou de le dire publiquement. Là, non seulement ils peuvent pas le dire publiquement, mais peuvent en parler à leurs amis et leurs camarades, parce que ça va se savoir, et les metteurs en scène, et les réalisateurs et les producteurs, ils vont justement prendre les décisions qui sont décrites dans ces capsules. C'est très bien fait, hein. Ils sont une quinzaine d'acteurs, il y a quatre capsules, on parle du fameux